15h06. On vous rappelle qu'il y a un ralentissement secteur des ponts. Audrey.
Gros ralentissement sur la porte direction sud. Ça brique sec, un auditeur nous dit. Puis effectivement, quand je regarde là, sur le pont, c'est plus difficile. Les entrées, par exemple, c'est complètement dégagé. Sur le reste du réseau, ça roule également. Évidemment, il y a quoi que ce soit. 88-971-1021 texto.
J'aime la conversation qu'on a avec vous autres, la gang des auditeurs de Boulevard 102.1, parce que, oui, quand il y a de quoi qui nous énerve, qui nous agresse, qui nous fait grincer des dents, on le partage, mais c'est le fun de partager des triples fun aussi. Puis je veux prendre le temps de saluer Pascal. Pascal voulait nous partager ce qu'il a vécu vendredi. Pascal dit « J'ai 51 ans, j'avais réussi à avoir l'an passé des billets pour Taylor Swift. Ma fille de 26 ans m'avait demandé d'essayer d'en avoir puisque j'écoute tous les types de musique et que je connais un peu de ses chansons. J'ai dit à ma fille, ben j'y vais avec toi. J'en ai vu des shows dans ma vie, mais là, j'ai pogné quelque chose. Mais quel show incroyable! Même quelqu'un qui n'aimerait pas l'artiste trouverait son bonheur. En résumé, j'appelle ça une grande messe. Puis en plus, avec sa fille, ça doit être toute une expérience.
Combien d'heures qu'elle joue? C'est-tu 3 heures et quelques?
Ouais.
Qu'elle joue sans arrêt ou presque, à part les changements de costumes.
Ben, elle joue 6 jours à Toronto. C'est non-stop, je pense. Là,
oui, c'est un truc, mais ça, il a dansé.
Fait que si vous avez des choses comme ça, une fois de temps en temps, à partager, gênez-vous surtout pas, le 418-971-1021. On va parler d'actualité automobile. Sam Tremblay, Michaud, chroniqueur automobile, entre autres pour RPM. Salut!
Bonjour, allô. J'ai reçu un bracelet de Taylor Swift.
Oh, un bracelet d'amitié.
Oui, parce que quand je prenais l'avion, Air Canada donnait des bracelets vu que j'allais à Toronto.
Ah, oh, c'est drôle.
Il y avait plein de gens qui aimaient Taylor Swift dans l'avion, puis là, le monde chantait. C'était un voyage différent.
Moi, je serais venu agressif. Toi, comment t'as géré ça?
Le noise cancelling.
Ah, les ces petits écouteurs-là.
Oui,
là.
Ça fonctionne bien.
Le monde chantait dans l'avion.
Oui, mais c'était. Honnêtement, ça faisait du bien. Le monde était heureux, puis c'est rare.
Moi, je leur aurais lancé un bracelet d'amitié par la tête.
Parce que dans l'avion, je trouve qu'on est tous bêtes un peu.
C'est vrai.
Personne ne se parle.
Il y a beaucoup de gens irritables ou irrités.
Un coude qui touche l'autre personne, tu deviens agressif.
Ouais.
Tandis que là, les gens chantaient de la musique.
Hey, c'est dommage, hot.
Ben,
c'est hot, je trouve.
C'était sympathique. Puis là, j'ai eu un bracelet. Je savais pas pourquoi. Puis là, j'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était les bracelets d'amitié.
C'est le fameux trend. Puis là, il y en a qui ont essayé de le copier. On en avait reçu, nous autres, quand on est allé voir Billie Eilish. Mais l'origine de tout ça, c'est vraiment au show de Taylor Swift, des fans qui faisaient des bracelets puis qui les donnaient dans la soirée à des gens qui connaissaient pas, juste
les
pour
gens
créer un contact. Oui, exactement.
Ouais, c'est vraiment
oui,
c'est
Il y a plein d'affaires. Puis il y a plein de gens qui ont essayé de partir des trends. Max Larouche a essayé de partir les bracelets French.
Pas un succès.
C'est à date, c'est vraiment poyant. T'as pris l'avion, pourquoi? Tu revenais encore d'une belle place?
Oui, je revenais du salon de l'auto de LA, de Los Angeles.
Ça devait pas être le fun. C'est pas une belle place, Los Angeles.
C'est une belle place, mais c'est un gros salon aussi. Fait que, je suis pas en touriste, là. T'sais, là, je suis en mode, il faut que j'aille voir les voitures, mais c'est vraiment une belle place. Ça fait beau là-bas encore. C'est ça qui est le fun. Ils sont bien. Une belle température.
Ils font ça au centre, au Convention Center, j'imagine.
Juste à côté du crypto.com.
Oui.
Le nouveau stade qui était le Staples
Arena. Là, ouais.
C'est immense. Comme centre de présentation.
Et des fois, c'est pas clair. Non, même, tu sais, quand je dis que c'est des bonnes journées, c'est que juste de faire la circulation dans le salon, tu sais, mettons, de passer d'un pavillon à l'autre avec un pas de marche agressif, tu sais, avec un bon pas, mettons, je me pratique pour les Olympiques de la marche. 20 minutes, à peu près.
Ah, je te crois. Écoute, je suis allé voir le E3, moi, là-bas, il y a plusieurs années de ça, alors que l'aréna s'appelait pas le crypto. Ça date un peu, là. Oui. Mais moi, ça m'avait impressionné, justement, l'étendue des kiosques de présentation puis la surface qu'ils prennent. Puis le E3 prenait même pas toute l'étendue du Convention Center.
C'est gigantesque. Malheureusement, le centre de l'auto n'a pas encore cette noblesse-là d'être encore extrêmement chargé en véhicule. C'est un salon qui, chaque année, perd un peu de ses plumes. Tu sais, il y a beaucoup de construction qui sont pas là. Quand on pense aux grandes voitures de marque de luxe comme les Allemandes, Mercedes, Audi, personne n'est là.
Okay.
Puis ça paraît quand même dans un salon quand des gros joueurs comme ça sont pas là. Par contre, cette année, on a quand même découvert quelques nouveaux véhicules intéressants qu'on va avoir ici aussi au Québec bientôt.
Ouais, parmi, laissons de côté les absents, parmi les présents, c'est quoi qui t'a fait tilter le plus?
Volkswagen a présenté le nouveau Tiguan de 3e génération. Je sais que c'est un véhicule qui est fort apprécié dans la région de Québec. On en voit beaucoup sur les routes également. Nouveau véhicule, nouvelle génération. Donc, c'est la même plateforme qu'on avait avant, mais elle s'appelle maintenant Evo. Donc, on a changé complètement l'habitacle à l'intérieur. Les versions les plus cossues auront le droit à un écran de 15 pouces d'infodivertissement, une télé à bord. Puis, je prends la peine d'en parler parce que oui, c'est bien beau parler de l'infodivertissement et compagnie, mais c'est vraiment un bel écran. Visuellement, là, comme c'est très joli, là, c'est vraiment bien intégré également, puis c'est extrêmement lumineux. Un véhicule qui a un nouveau moteur 2 litres, à vrai dire, c'est le même moteur qu'on a renouvelé Transmission 4Motion de série, on arrive avec la même transmission automatique également, mais c'est un VUS qui risque de plaire et pour son nouveau look, plus robuste, plus carré. Je trouve que le coup de pinceau a été bien fait de la part de Volkswagen à ce niveau-là. Beaucoup de VUS cette année, hein, on n'a pas, on va dire, j'ai aucune voiture, sauf si vous considérez que la Kia EV6, la voiture électrique, c'est oui. un multi-segment plus VUS un peu. Là. T'sais, on n'est pas loin du VUS, mais on n'est pas tant là. A été renouvelé pour 2025, donc une mise à jour de cette voiture électrique très fort populaire également. Grosse nouveauté, c'est qu'on va ramener une plus petite batterie de série. Des fois, vous me dites, ouais, mais le but, c'est pas avoir plus d'autonomie. C'est ça ouais. qu'on veut. Et souvent, les gens se rendent compte qu'ils font pas tant de kilomètres que ça dans une journée.
Tu vas t'en servir une fois par année ouais. de la batterie au grand complet, mais pour ton usage quotidien, tu vas préférer payer un véhicule moins cher.
Exact. Ouais. Exact. Puis là, ben, on a une batterie de 63 kWh qui va s'ajouter maintenant de série au lieu d'une batterie de 84 qui va être pour les autres modèles. On n'a pas encore l'autonomie exacte, mais on devrait être autour d'un 400 km quand même, ce qui pour une utilisation quotidienne devrait faire bien du sens. Maintenant, j'ai hâte de voir à quel prix ils vont vouloir nous le vendre, mm-hmm, cette petite batterie-là, ouais. parce qu'on se rappelle que dès le janvier qui arrive, on va perdre la moitié des subventions au provincial.
Ça donc, va faire une différence.
Ça va faire une méchante différence et les constructeurs ne pourront plus se fier là-dessus pour vendre leurs véhicules également. Donc, j'ai bien hâte de voir ça prochainement.
Hey, tu parles de véhicules électriques. Il y a quelques nouvelles dans l'actualité automobile là-dessus. Gros rappel chez Hyundai de voitures électriques.
Ça l'a brassé beaucoup la semaine dernière. J'avais initialement trouvé une nouvelle sur un groupe Facebook d'amateurs de Hyundai Ioniq 5, ce qui m'a amené à écrire un article sur le rpmweb.ca concernant un arrêt des ventes des véhicules Hyundai Ioniq 5 la semaine passée. Ça l'a fait réagir énormément. Hyundai Canada, j'ai essayé de rentrer en contact avec eux, m'ont rappelé. On a discuté beaucoup la semaine dernière ensemble parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un problème avec le système ICCU de ces véhicules-là. C'est un peu l'ordinateur là, qui s'occupe de gérer la rapidité de recharge des véhicules. Okay. C'est lui qui gère un peu l'autonomie restante. C'est une pièce vraiment importante de la voiture électrique de l'ère moderne. Là. Et ces véhicules-là étaient connus, la plateforme EGMP sur laquelle ils sont bâtis était connue pour avoir des bobos. Et là, ben, on a découvert une autre faille dans ce système-là, ce qui a amené un arrêt des ventes la semaine dernière. Finalement, on s'est rendu compte que c'était pas juste la Ioniq 5, il y avait la Ioniq 6. Oh. Il y avait également le modèle chez Genesis GV60, le G80 électrique et le GV70 électrique également. J'ai pas réussi à avoir les détails de Kia non plus de l'autre côté, mais Kia bâtit les véhicules sur la même plateforme.
La même interface.
Oh. C'est le même système. Donc, selon moi, la semaine dernière, si vous avez eu un coup de téléphone de votre concessionnaire pour dire que finalement, il va arriver vendredi, votre voiture, c'est parce qu'ils ont fait le rappel également sur cette pièce-là. Et finalement, à la fin de la semaine, on a finalement déclaré un rappel qui va toucher plusieurs dizaines de milliers de véhicules pour essayer de réparer ce bobo-là.
Ça, c'est coûteux, hein?
C'est coûteux, puis ça brise beaucoup la confiance. Mm. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a plein de gens après ça qui avaient une certaine méfiance, des gens qui allaient chercher la voiture, qui se disent, ben là, tu sais, je vais chercher l'auto une fois qu'ils ont fait la reprogrammation, parce que la solution, c'était de faire une mise à jour du système. Mais ça reste que c'est toujours inquiétant d'avoir ce genre de nouvelles-là, surtout sur des pièces aussi importantes. Ça prouve également que dans l'évolution de la technologie, tu sais, avant ça, on aurait dit, ah, il y a un problème de transmission, ce véhicule-là. Puis là, les gens auraient eu peur. Mais là, je vous parle de ICCU. Ça vous dit pas grand-chose, mais c'est rendu presque aussi important qu'une transmission d'une voiture à essence.
J'ai une question hyper épaisse. Quand il y a des bugs dans un jeu vidéo, t'es capable d'aller télécharger des patchs qui règlent les problèmes.
Ouais.
On n'est pas loin de ça pareil, j'imagine, pour éviter ce genre de rappel-là. Je sais pas si technologiquement c'était possible de régler ça avec quelque chose que tu aurais pu télécharger. Je sais pas, là, je dis n'importe quoi.
On est 100% là, on peut juste pas souffler sa cassette. C'est la seule affaire qu'on peut pas faire. Parce que la mise à jour, honnêtement, c'est même une chose que les constructeurs aiment beaucoup se vanter. On va pouvoir faire des mises à jour à distance. Mm-hmm. Pas besoin de ramener votre voiture au concessionnaire. On va la faire à distance, la mise à jour. Donc, on essaie de rassurer le monde avec ça. Ouais. Mais oui, maintenant, on va faire des mises à jour... des reprogrammations qu'on appelle souvent, on va changer la matière, la manière que le système va réagir. Mais entre vous et moi, c'est sûr que ça ébranle encore beaucoup l'industrie du véhicule électrique.
Puis, c'est intéressant, tu en faisais mention, là, il y a un paquet de subventions qui ne seront plus disponibles, puis ça va être le vrai test, en tout cas au Québec, concernant... Oui. Le buzz qu'on a connu dans les dernières années d'achat de véhicules électriques. Puis, ça permet en même temps de vérifier quelques trucs qui circulent depuis un bout. Je ne sais pas si tu as vu le texte dans la presse où des gens posaient la question, c'est-tu vrai que la valeur des véhicules électriques déprécie plus vite que celle des véhicules à gaz? Ils ont fait leur vérification, ils en arrivent à leur conclusion. T'en penses quoi, toi?
Moi, je pense que c'est vrai.
À cause de la batterie?
Oui, puis à cause aussi de l'inquiétude face à la longévité de ces voitures-là. Il y encore cette crainte-là. Faut savoir aussi que les véhicules électriques avaient de base un prix plus cher également.
Ouais.
Donc, c'est sûr que quand on compare, exemple, une voiture d'entrée de gamme à moteur thermique qui est autour de 24 000 $ versus une voiture électrique sans subvention qui va être plus autour de 50 000 $ si on regarde le prix de vente ensuite qui est autour de 32 000 mettons, dans l'usager, bien, il y a une méchante bonne drop versus celle à 24 000 qui va se revendre autour de 17 ou 18 000 $ Donc, oui, il y a une bonne différence à ce niveau-là. La fiabilité des produits, puis tu sais, on vient de parler d'un rappel important, ça amène aussi cette crainte-là. Donc, il y a peut-être des acheteurs qui sont moins portés à le faire, mais il y a aussi les subventions. Quand on achète dans l'usager, ça devient peut-être des fois moins intéressant parce que tu te dis, tant qu'à ça, je vais aller m'en chercher un flambant neuf et profiter des pleines subventions. Exactement. Donc, c'est un peu ça l'idée également. Je pense que c'est toute cette espèce de mélange-là qui donne aux véhicules électriques une mauvaise presse dans l'usager. Puis, tu sais, effectivement, l'efficacité de ces véhicules-là. Tu sais, quand on disait une voiture moteur thermique, ça perd de la puissance. Parce que c'est vrai, là, des moteurs qui s'encrassent, des moteurs qui sont mal entretenus, par exemple, ou même qui sont juste qui ont roulé, là, qui ont travaillé.
Du vécu.
Ils n'auront pas nécessairement les mêmes spécifications techniques que lorsqu'ils sont sortis du concessionnaire. On n'aura pas exactement le même nombre de chevaux qu'on avait au départ, et c'est normal. Maintenant, quand on dit ça à quelqu'un qui achète une voiture usagée, c'est moins grave parce qu'on se dit, bien, au moins le véhicule fonctionne encore. Puis entre 147 ou 139 chevaux, j'en verrai pas nécessairement une grande différence. Tandis que là, on parle d'une autonomie qui va diminuer, on parle d'une performance également sur un long terme qui pourrait perdre également. Puis ça, ça fait peur, effectivement. Là.
On parlait aussi de la dégradation de la batterie qui était de 2 à 3 % par année. Moi, ça ne m'apparaît pas énorme au point que ça peut changer la valeur d'un véhicule, d'autant plus que ce qu'il disait, c'est que ces batteries-là, on a travaillé. Là. Puis déjà, au niveau de la dégradation, ça va moins vite. Là. On est rendu à 1 % par année à peu près. Là.
Ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est la manière de refroidir et de jouer avec la température de ces batteries-là. Parce qu'une des choses qui a amené les batteries à avoir une plus forte dégradation, c'était les chocs thermiques. Donc, on avait des voitures, par exemple, au début, je pense, par exemple, à la Nissan Leaf au tournant des années 2009-2010, qui se vendait avec une méthode de refroidissement à l'air. Donc, un peu comme une bonne vieille Harley Davidson, on faisait rentrer de l'air dans la batterie en roulant le véhicule, ce qui refroidissait la batterie ou non si l'air était chaud.
On a un autre type de refroidissement aussi au Québec, on appelle ça décembre.
Oui! Oui, ça marche.
C'est très ciblé dans l'année, par contre.
Oui, c'est très ciblé. Mais puis ça fonctionne bien. Mais le problème, c'est que la batterie, justement, l'été, elle avait très, très chaud, puis l'hiver, elle avait très, très froid, ce qui faisait en sorte qu'elle n'était jamais capable d'avoir un bon niveau de protection pour moins se dégrader rapidement. Maintenant, on utilise des liquides pour refroidir les batteries, ce qui permet justement d'avoir toujours sensiblement la même température à l'intérieur du véhicule. Les voitures aussi se gardent toujours un pourcentage de protection. Donc, quand, mettons, on vous dit qu'il n'y a plus de batterie dans votre voiture, vous êtes à 0 %, c'est pas vrai. Il vous reste encore un peu de jus. Le constructeur fait par exprès de donner une fausse donnée pour protéger la batterie. Donc, on essaie par plein de techniques comme ça d'amener les batteries à être plus durables. Faut faire attention aussi des fois que pour la voiture usagée, dans tous les cas, puis c'est la même chose pour une voiture électrique ou à essence, l'affaire la plus importante, c'est de s'assurer d'acheter une voiture qui a été bien entretenue, bien conduite et qui a un historique d'entretien. Ça, c'est la même chose pour les voitures électriques. Donc, je pense que là, nous, on a mauvaise presse, mais dans quelques années, on devrait se dire « Ah, OK, on va passer à d'autres choses. »
Ben, qui vient de nous texter concernant ce que tu jasais en début de conversation, dit « Je suis justement en attente de ma prise de possession du Ioniq 5. On m'a repoussé à jeudi. As-tu un message pour Ben? »
Lâchez pas. mais non, mais soyez patient. Puis surtout, tu sais, là, je sais pas c'est quoi le plan de financement de monsieur ou s'il l'a acheté, il l'a loué ou quoi que ce soit. Mais là, la fameuse reprogrammation, je vous cacherai pas que même pour nous, c'est des véhicules qu'on avait une certaine confiance, parce qu'on avait même recommandé chez RPM, mais que ça ébranle maintenant, parce que là, ces problèmes-là de ICCU, c'est des problèmes qui sont sérieux et qui datent et qui durent. Donc là, on va mettre une pression supplémentaire sur les constructeurs. Hyundai, par contre, de leur côté, je vais donner des fleurs à quelque chose qu'il faut, ils sont très transparents.
Okay.
Ils disent toutes les choses. Donc, on sait exactement que là, c'était une reprogrammation, on sait qu'il y avait un problème avec le ICCU, ils ont trouvé une solution, c'est ce qu'on nous a dit, et ils l'ont appliqué. Donc, si vous êtes mieux d'attendre que de pousser à avoir votre véhicule plus rapidement, au moins d'avoir la reprogrammation comme il faut, puis ensuite, vous allez prendre possession. Vous ne devriez pas avoir de problème en théorie.
Ça reste un avant Noël, puis pas un après Noël.
Exactement.
OK.
Exactement.
Ça peut changer des choses, là. Mais
clairement, il y a des gens qui, la semaine passée, l'avaient le mercredi qu'on a annoncé l'arrêt des ventes, ils l'ont eu le vendredi parce qu'ils ont déjà la formule de la reprogrammation.
Parfait.
Donc, Ben, tu vas voir ton char.
Sam, t'écris beaucoup de textes sur le site de RPM. Puis je savais pas, moi, que c'était un site où tu pouvais te lancer dans des éditoriaux flamboyants.
Je m'amuse des fois.
T'as partagé ce texte-là sur ton Facebook, puis j'ai ri en fin de semaine. T'es tanné des autocollants des concessionnaires sur les voitures.
Oh, je suis tellement à la même place que toi dans cette affaire-là.
Je suis plus capable.
Non, mais je suis plus capable de voir l'abus qu'on a avec les autocollants. Puis là, je parle des fameux stickers qu'on a à l'arrière du véhicule, sur le devant, sur le pare-choc, ou la petite plaque en
la
plastique
plaque, ben
qu'on
oui.
met par-dessus,
ben oui.
et ou l'écusson. Est-ce que tu sais, à l'arrière de votre voiture, ça va être écrit par exemple Hyundai Elantra. Vous allez mm-hmm. avoir l'écusson Elantra. Mm-hmm. Des fois, il y a des concessionnaires qui en produisent
concessionnaire Michaud.
Exactement, mettons. À leur effigie qui colle sur le véhicule. Et là, je trouve qu'on va dans l'abus un petit peu parce que des fois, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens sont pas au courant, mais on a le droit de dire non à ces autocollants-là. Parce qu'au bout de la ligne, ce qu'on fait, c'est.
On peut l'enlever notre plaque en plastique. Là?
On peut l'enlever sans d'accord. problème.
C'est que l'autocollant est un peu difficile à enlever puis tu veux pas briser ta peinture non plus.
Mm. Bien, c'est exactement ça le point. Moi, je suis un tripeux de voiture. J'aime garder mes voitures propres et à long terme. Et là, l'autocollant, si par exemple, j'achète une voiture usagée qui a un autocollant depuis 4 ans dessus, à l'arrière de l'autocollant, il va y avoir une différence de peinture entre la peinture actuellement de mon véhicule et de celle d'il y a 4 ans. Et l'autocollant va graffiner aussi. Les petites plaques en plastique, généralement, ils vibrent, donc vont graffiner la peinture ouais. également. Et à un moment donné, moi, je trouve qu'il y a comme une limite à faire de la publicité gratuitement pour tout le monde.
On n'est pas des chars de F1.
Ben là, tu sais, est-ce que vous aimeriez avoir votre téléphone cellulaire avec un gros Rogers en arrière détempé dessus?
Non, puis tu sais, moi, du moment où j'ai un bon
Rogers,
service...
Rogers, Place Laurier.
Ben là, tu sais, où...
demande-moi où j'ai pris mon char, je vais te le vanter, le concessionnaire, si j'ai eu un bon service. Je vais faire une bien meilleure publicité avec le autocollant.
À 100% un rabais que je laisse le collant sur mon char.
Tu porterais-tu un beau manteau North Face avec l'étiquette Sport Expert? Tu sais, maintenant, c'est assez. C'est assez. On en
par
fait
contre,
déjà.
Je vais te dire, je l'ai pris où mon manteau?
Ça
si
va
tu
me faire
beau.
Plaisir d'en parler. C'est juste que rendu là, je trouve que c'est trop acquis maintenant. Puis, tu sais, j'ai vu des affaires dernièrement qui me faisaient capoter. Là, des concessionnaires imprimés en lettrage vinyle sur une boîte de pick-up. Puis, c'était pas une voiture de un particulier. Là, c'est même pas une plaquette. Là, un véhicule d'un particulier. Puis là, tu te dis, tu sais, à un moment donné, il y a de l'abus dans ça. Puis, mon message, c'était surtout de dire non à l'autocollant des concessionnaires. Et vous avez le droit de dire non. Vous ne devriez jamais. Et jamais être pénalisé de dire non. Parce que j'ai entendu des histoires comme quoi il y a des gens qui se faisaient charger
ben
des
non.
frais pour ne pas avoir les autocollants. J'ai pas de preuves, je peux pas. J'ai fait mon enquête du mieux que je pouvais, mais j'ai pas assez de sources fiables pour me dire que j'en fais un texte. Mais j'ai entendu des échos et des rumeurs comme quoi c'est des choses qui sont arrivées. Donc vous ne devriez jamais avoir de problème avec ça et vous avez le droit de dire non. Donc quand vous achetez une voiture, si vous voulez l'avoir esthétiquement belle et pas avoir un autocollant qui vous répugne un peu comme moi, vous avez le droit de dire non.
Ou je sais pas s'il nous en reste des autocollants de boulevard ici à la station.
Ah, mais ça,
oui.
ça fait plaisir parce que quand c'est un choix...
On le met par-dessus.
Ben voilà!
on règle le problème.
Exactement.
Hey, merci Sam.
Toujours un plaisir.
Sam Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, vous le rejoignez sur son Facebook. Vous allez le lire sur le site de RPM, évidemment. Puis malgré le lot de textes qu'il réussit à pondre et à partager, il y a encore le temps de venir nous voir.
Puis j'aime ça.
Ben, t'écris beaucoup. T'es rendu le Richard Martineau de la chronique auto.
Oh. C'est bien.
Faut que je réfléchisse. Je pensais que c'était un compliment, là, mais faut que j'y repense un petit peu.
Ben, je suis content.
Tu fais des éditoriaux puis t'écris beaucoup. Fait que...
Ton nom commence à se promener. Il y a quelque chose de...
T'as-tu quoi à dire? C'est woke, toi?
Je me prononcerai.
Il est à 15h24. Vous êtes à Boulevard. On écoute Weezer avec Ashpipe. C'est Gravel dans le retour. Bon lundi, puis bon début de semaine.